Ça va bien? Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre. On s'en va au chapitre 3. Je veux remercier Michel qui nous a bien mis la table la semaine dernière. Il y a vraiment un lien important entre le passage de la semaine dernière et le passage de ce matin. Puis j'en profite pour vous demander, pendant que je vais prêcher tantôt, de prier pour Jonathan Bédard. Jonathan, c'est notre stagiaire cet été, d'accord? Et Jonathan... Bien, je n'ai pas pensé à mon coup, mais Jonathan doit prêcher pendant son stage cet été. Alors, ce matin, Jonathan prêche à Sorel, probablement pour son 4e message à vie dans le passage le plus difficile à interpréter de tout le Nouveau Testament. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pensé, mais au début de la semaine, j'ai dit « c'est pas vrai ». J'ai envoyé Jonathan prêcher sur 1 Pierre 3, 18 à 22. C'est comme Martin Luther se grattait la tête, s'arrachait les cheveux en disant « je comprends pas qu'est-ce que l'apôtre voulait dire ici ». D'accord? Puis j'ai envoyé Jonathan prêcher là-dessus à Sorel pendant que moi je prêche ici. Alors priez pour Jonathan, s'il vous plaît. C'est vraiment un homme courageux. C'est un passage difficile qu'on va regarder ce matin, mais c'est un passage extrêmement édifiant. Pierre, à travers sa lettre, veut encourager des chrétiens de la région d'Asie mineure, une région de l'Empire romain, et donc c'est une lettre qui était appelée à circuler dans plusieurs églises. Un contexte où les chrétiens ne sont pas bien reçus, souvent, un contexte où il va y avoir des difficultés, voire des persécutions dont les chrétiens vont faire l'objet. Et Pierre veut les encourager à travers ces souffrances-là. Pierre va les encourager en pointant vers Jésus-Christ, qui, admettons-le, a souffert plus que sa part, n'est-ce pas, en mourant sur la croix. Et donc, souvent, il va pointer vers Christ. Parfois, il va pointer vers Christ en disant, « Regardez à Christ, c'est notre exemple, c'est notre modèle. » Ce matin, ce n'est pas ça qu'il fait dans le passage. Ce matin, Pierre ne nous donne pas Jésus-Christ comme exemple, il nous donne Christ comme encouragement par sa victoire. Et il nous dit, « Ceux des chrétiens, depuis 2000 ans et jusqu'au retour de Christ, qui auront à subir des injustices, des souffrances injuste dans cette vie et qui choisissent de le faire comme les chrétiens le font depuis 2000 ans, avec grâce, avec douceur, avec patience, savent déjà qu'ils sont du bon côté de l'histoire parce que Christ a vaincu et il est déjà vainqueur. Amen! Et ce matin, Pierre veut vous encourager si vous êtes en train de vivre des situations injustes, souffrantes et vous cherchez la bonne attitude à avoir. Ce matin, ce ne sera pas en regardant Christ comme exemple, mais en prenant le temps, pendant la semaine, de l'adorer, de prier, de réaliser qu'il est actuellement à la droite de Dieu et qu'il règne, qu'il a déjà la victoire. Et si vous choisissez d'avoir cette bonne attitude douce et patiente à travers des souffrances injustes, vous êtes du bon côté de l'histoire. On va prier ensemble avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, on est assemblés en Église pour chanter tes louanges, pour reconnaître dans nos cœurs, Seigneur, on prend ce moment d'arrêt dans la semaine pour te célébrer, pour t'élever dans nos cœurs, pour t'élever par nos chants, pour t'élever par nos voix, pour apprécier ce matin, Seigneur, peser le poids de ta gloire, de ta victoire, Seigneur, pour replacer les choses dans le bon ordre, dans notre esprit, dans notre cœur, repositionner des souffrances peut-être injustes qu'on a à souffrir, Seigneur, dans des relations, dans des difficultés de la vie, et prendre courage, retrouver l'espoir, être rempli de foi et d'espérance, parce que nous savons déjà, Seigneur, que nous sommes du bon côté de l'histoire. Seigneur, je veux te demander de venir faire une œuvre puissante par ton Esprit Saint dans nos cœurs. Viens appliquer cette parole à nos âmes, Seigneur. Et si quelques personnes parmi nous ce matin est arrivée découragée, désespérée, viens, Seigneur, viens remplir cette personne, Seigneur, d'espoir en toi et de foi, afin qu'elle puisse traverser les épreuves de la vie avec une joie et une paix qui ne s'expliquent que par la foi en toi. par cet engagement ferme à fixer les regards sur toi, non sur nous-mêmes, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
La lecture de ce matin est tirée de 1 Pierre, au chapitre 3, les versets 17 à 22. Je vais lire la nouvelle édition Genève. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 17 à 22. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.
Merci Stéphane. Alors, on vit dans un monde où on va tous subir des injustices. C'est indéniable. C'est certain, c'est une absolue certitude, si je peux dire ça. Et cette semaine, on a vu, puis plusieurs d'entre vous avaient été victimes d'une injustice. Énorme, potentiellement énorme. 2,9 millions de Québécois se sont fait voler des informations personnelles chez Desjardins cette semaine. On est, si vous ne le saviez pas, je suis désolé, je vous l'apprends ce matin. Suivez l'actualité, s'il vous plaît, avant de venir à l'église. Je ne vais pas vous faire une syncope. Il y en a qui sont en train de se connecter sur leur compte là, pour voir s'il reste de l'argent dans le compte de banque. Il n'y a pas eu de vol d'argent encore. Soyez en paix, vous pouvez écouter la prédication. 8,4 millions de Québécois, compris les enfants. Enlever les enfants de ça, ça veut dire que c'est plus d'un tiers des Québécois qui se sont fait voler des informations personnel cette semaine. Il y a une bonne partie de l'Assemblée ici qui s'est fait voler des informations personnelles chez Desjardins et on ne connaît pas les répercussions de ça. Il n'y aura peut-être pas de répercussions, c'est peu probable. Il devrait y avoir des répercussions. Il y en a d'entre vous qui allez vous faire téléphoner cette semaine. Puis il va avoir un appel, puis là on va dire « On a appris, on travaille pour Desjardins, on a vu que vous avez été victime, répondez pas ». C'est pas comme ça qu'ils vont vous contacter, ils vont vous envoyer une lettre par la poste, ça va être sur leur application, sur le site web, d'accord? Embarquez pas là-dedans. Mais vous comprenez, c'est vraiment une injustice. Parce qu'il y a un employé qui a décidé qu'il allait tromper le système puis qu'il allait voler un paquet de monde. Et c'est vraiment une injustice. Il y a personne qui méritait de subir ça ici, cette semaine. Et cette injustice-là ne s'arrête pas là. Parce qu'on ne connaît pas les répercussions. Donc, ça peut avoir des incidences sérieuses. On parle d'un numéro d'assurance sociale, le nom de la personne, la date de naissance, c'est le genre de choses que tu ne changes pas souvent dans ta vie. Fait que ça peut être assez compliqué. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Pensez aux milliers d'employés chez Desjardins, dont plusieurs vont se faire apostropher par des gens frustrés qui vont dire « Ma gang d'incompétents, c'est ça Desjardins! Coopérative! » Ils ne sont pas responsables de cette erreur-là, probablement. Ils n'ont probablement rien fait là-dedans, mais ils vont subir encore des injustices à cause de ça. Puis combien de patrons, je ne sais pas, c'était peut-être pas évitable cette affaire-là, peut-être qu'on est juste en train d'apprendre à s'adapter à cette réalité-là technologique. Il y a probablement du monde, il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi, possiblement, et peut-être injustement, parce qu'il faut qu'il y ait une tête qui roule. Il faut qu'il y ait un nom, faut qu'il y ait quelqu'un à blâmer. C'est ça la réalité. C'est qu'on vit dans un monde où il y a des injustices. Et je veux dire, honnêtement, pour la majorité des victimes, cette injustice-là n'aura probablement pas des incidences très, très graves, parce qu'ils vont assumer beaucoup de la responsabilité. Mais certains d'entre vous, vous avez vécu des situations injustes qui ont des implications beaucoup plus graves. Je pense des fois à des situations où vous avez des accidentés de la route, puis vous êtes dans un dossier avec la SAQ, tout ça, puis il y a de l'abus, alors ils se protègent, puis là vous êtes dans une situation où vous êtes mal jugé, puis des fois vous allez traîner des problèmes de santé parce que les coûts seraient tellement chers que vous ne pouvez pas vous les payer, mais il y a eu un mauvais jugement à votre égard, un jugement injuste. Là, ça commence à devenir pas mal plus personnel comme souffrance. Et toutes les souffrances injustes qu'on va vivre tout simplement dans des relations personnelles les uns avec les autres. La souffrance injuste fait partie du lot de la vie ici-bas pour tous les êtres humains, pour chacun d'entre nous. Et il y a un grand principe chrétien qui est évoqué dans 1 Pierre au verset 3, au verset 17. « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Ce principe-là est un principe pour les chrétiens depuis 2000 ans. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et cela implique que je vais accepter de souffrir des injustices. Parce que si je souffre parce que j'ai fait le mal, il n'y a pas d'injustice. Ça, c'est juste la justice qui est en train de s'opérer. Tu as fait le mal, tu souffres pour ça. Il y a des conséquences. Il y a quelqu'un qui s'est fait virer cette semaine. Il y a probablement des accusations criminelles qui vont être portées chez Desjardins par la police contre cet individu-là. Il ne pourra pas aller en prison en disant « Ah, on vit dans un monde injuste! » Non, tu as décidé de voler l'identité de 2,9 millions de Québécois. Il y a beaucoup de gens qui attendent la justice ici-bas. Et s'ils acceptent ça, s'ils acceptent la justice et qu'ils s'en volent en disant ben, « je le mérite », c'est bien. Mais l'attitude des chrétiens depuis 2000 ans va beaucoup plus loin que ça. Parce que dans ce cas-là, c'est la justice. On parle de souffrir injustement, si telle est la volonté de Dieu, parce que Dieu le permet. Parce que Dieu permet cette situation-là dans ta vie, puis tu ne peux pas la changer et tu es simplement victime d'injustice. Et de garder une attitude patiente et douce, aimable, conciliante, plutôt qu'être revanchant, plutôt que de monter aux barricades, plutôt que de s'emporter pour se faire justice, plutôt que de chercher la vengeance. Depuis 2000 ans, c'est la marque de commerce des chrétiens. D'accepter de souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Et pourtant, dans nos cœurs, on a des cœurs humains, on vit la réalité comme tout le monde. Souvent, lorsqu'on vit des injustices, le cri, la clameur, ce qui lève, la souffrance qui vient dans notre cœur, elle a dit « À quoi ça sert de souffrir? » Et c'est ça qu'on entend constamment, des gens qui subissent des situations injustes. « Oui, mais à quoi ça sert de souffrir? » Et dans le passage de ce matin, la réponse de Pierre, c'est ceci. Ça sert à être du bon côté de l'histoire. Parce qu'un jour, Christ revient et il a déjà vaincu. Et ça sert à être dans le camp des vainqueurs que d'accepter gracieusement de souffrir des injustices en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Voilà à quoi ça sert. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que ton espoir dans les injustices de la vie se trouve dans l'œuvre parfaitement injuste de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a une petite contradiction ici. Et cela demande d'embarquer par la foi. Ton espoir dans les injustices de la vie se trouve dans l'œuvre parfaitement injuste de Jésus-Christ. Et cela demande d'embarquer par la foi. La parfaite injustice de Christ. Premièrement, la parfaite injustice de Christ. Verset 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Et là, Pierre va donner comme exemple l'exemple absolu. Le plus grand exemple qu'on peut donner, la personne de Christ elle-même, Jésus-Christ. Au verset 18, Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. La souffrance injuste du juste. Une des choses qu'il faut comprendre lorsque tu veux comprendre c'est quoi le christianisme, c'est que tous les êtres humains, devant Dieu, toute proportion gardée, là, si tu te places devant Dieu, tous les êtres humains sont des injustes. En comparaison de Dieu, tous les êtres humains sont des injustes. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est juste, et on a tous commis des injustices. Alors nous sommes tous des injustes ici. Et si tu n'es pas en mesure de reconnaître ça, tu ne pourras jamais saisir l'Évangile. Tu ne comprendras jamais le Dieu de la Bible. Tu es un injuste. Bon, tu te compares avec ton prochain, puis tu te dis, moi, je n'ai pas fraudé 2,9 millions de personnes. J'ai ma petite théorie là-dessus. Moi, je pense qu'on a tous le potentiel de faire les choses les plus ignobles. Je pense que c'est là en nous. Fait que tu n'as peut-être juste pas eu l'opportunité. Je te laisse ça comme ça pour réfléchir. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « Ordinary Man » qui raconte comment le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale a réussi à prendre des gens bien et à les endoctriner. Ce n'était pas des militaires. Et à les endoctriner de sorte qu'ils deviennent les bataillons les plus cruels du régime nazi. Et tout le livre cherche à dire ce potentiel-là d'horreur, de méchanceté, le péché. La Bible l'appelle notre nature pécheresse. Est là dans chaque être humain, en chacun de nous. Alors, pour comprendre le christianisme, pour saisir la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ est venu faire, ça me demande premièrement de reconnaître qu'on est tous des injustes. Et comme injustes, bien, il y a des situations où on va subir de la souffrance juste et d'autres souffrances injustes. Tu t'es fait prendre à faire le mal, tu vas peut-être souffrir justement pour ton injustice. Mais d'autres fois, comme tu vis avec une méchante gang d'injustes, il y en a une couple ici dans la salle, bien, ce que ça donne, c'est que des fois, tu vas souffrir injustement. C'est évident, si on est tous avec des injustes puis qu'ils continuent à respirer, les gens autour de moi, des fois, ils vont être à la hauteur de ce qu'ils sont, des êtres injustes, puis ça va être moi la victime. Tu vis en famille, tu vis en couple, tu vis en église, tu as un travail, tu vas à l'école, partout, ça va être comme ça. Mais dans l'histoire de l'humanité, les Saintes Écritures nous disent qu'il y a eu un homme, qui était un juste, qui n'avait jamais commis d'injustice devant Dieu. Et cet homme-là s'appelait Jésus de Nazareth. C'était le juste qui est venu mourir une fois pour toutes pour le péché, pour les injustes, afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Et si tu dis, regarde, c'est ça, moi c'est là que je décroche, là on est dans la mythologie. Un homme qui n'a jamais fait de péché, c'est dans la mythologie. Prends au moins le temps d'aller lire les Évangiles. Le minimum, tu vas finir ça et tu vas dire, écoute, c'est un homme extraordinaire. Minimum, ça va être ça. Plus probablement, tu vas dire, non, c'est un homme exceptionnel. Et plus probablement encore, tu vas dire, il y en avait peu qui étaient comparables à lui. Et peut-être, que par la grâce de Dieu, tu vas dire, comme le soldat romain, hein, qui l'a regardé mourir, puis a dit, celui-ci, c'était le Fils de Dieu. C'était un juste. Mais va lire les Évangiles pour te faire ta propre avis. Fie-toi pas sur moi, fie-toi pas sur les préjugés de la société, sur ce que tu entends sur le christianisme, sur ton expérience avec des chrétiens. Là, je te parle de Jésus, je te parle pas des chrétiens. Les chrétiens, on est tous des injustes. Tu as rencontré des chrétiens et tu dis, ah, ils sont aussi pécheurs que les autres. Tu as tellement raison. Fais-toi pas une idée juste là-dessus. On est juste des pécheurs graciés. C'est juste ça qu'on est, des pécheurs graciés, d'accord? Des injustes à qui Dieu a fait grâce, c'est ça qu'on est. Par la grâce de Dieu, on pêche un peu moins souvent. Par la grâce de Dieu aussi, pas parce qu'on est des justes, par la grâce de Dieu. Et donc, il y avait cet homme, Jésus de Nazareth, qui est venu, et Pierre nous dit, celui-ci était juste, et il est venu mourir, souffrir pour les péchés, une fois pour toutes. Christ a beaucoup souffert dans sa vie. Imagine un instant que tu serais quelqu'un sans péché. Tu n'aurais jamais péché, puis tu vis parmi les pécheurs. Juste comme enfant à la maison, après ça comme adulte, puis on regarde son ministère. Il a souffert plein de fois, mais Pierre est en train de faire allusion ici à sa mort à la croix. À sa mort à la croix. Lorsqu'il est mort sur la croix, c'était une mort propitiatoire. Il mourait à notre place afin que Dieu nous soit propice, que Dieu nous accueille, afin d'effacer mon injustice aux yeux de Dieu. Et c'est ça que Pierre est en train de nous dire ici, la souffrance injuste du juste, parce que Jésus n'a jamais péché. Vous savez, une des particularités lorsqu'on souffre, comme chrétien aussi, c'est que souvent on a l'impression que Dieu s'éloigne de nous. Vous irez lire le livre de Job. D'accord? Lorsqu'on souffre, on a l'impression que Dieu s'éloigne de nous, et c'est extrêmement tentant de commencer à imaginer Dieu, à penser à Dieu à travers notre souffrance. Puis là, Dieu devient comme celui qui pourrait tout nous donner, mais qui retient ça. Tu pourrais me guérir, tu pourrais me donner du travail, tu aurais pu permettre que cette souffrance-là n'arrive pas, mais tu retiens ça, tu es un Dieu qui garde les choses pour toi. Et ça, c'est complètement faux. Je ne vais pas expliquer tout le mal et la souffrance dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du passage, puis c'est un passage où il y a beaucoup à dire. Mais je veux juste mentionner, la souffrance peut faire que j'ai l'impression que Dieu devient extrêmement loin. Il est distant, c'est comme celui qui pourrait, tu sais, écoute, t'as tout, si t'es le Dieu de la Bible, t'as tout, tu pourrais juste comme apaiser ma souffrance, mais tu retiens ça. Puis là, Dieu semble avoir, puis je suis en train de lire un livre qui vraiment est en train de m'édifier terriblement, ça s'appelle « The Good Life » par un pasteur que j'aime énormément, un ami, Tim Savage. Et puis, je veux juste vous lire une citation. On a fait une traduction libre de ça. « Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu avare. Il n'amasse pas pour lui-même. Sa libéralité rayonne vers l'extérieur comme les rayons du soleil, comme l'eau jaillissant d'un geyser. Il est un Dieu qui se donne lui-même, pensez à la croix, se déversant lui-même et déversant ses bontés constamment dans la création. Cet après-midi, va prendre une marche. » Prophète du soleil, c'est la seule belle fin de semaine de l'été. Va prendre une marche. Puis arrête-toi à un certain moment donné, fais juste fermer les yeux puis recevoir les rayons du soleil puis pense à Dieu un instant, qui a créé le soleil. C'est tellement une belle image de Dieu. C'est tellement une belle image. Voici ce que Tim dit ensuite. Il dit, « Une telle générosité pourrait sembler épuiser les ressources divines. Un Dieu qui se donne constamment comme ça. C'est cependant tout le contraire. Plus Dieu se donne lui-même, plus il peut en donner. Dieu ne semble jamais aussi riche que lorsqu'il se dépouille lui-même. » Et Christ n'est jamais beau. Dieu le Fils, Jésus-Christ, n'est jamais aussi beau que lorsqu'il se dépouille lui-même sur la croix pour nous. Tel est le Dieu qui nous aime et qui a souffert pour des injustes. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Pierre nous dit pour nous amener à Dieu. Son objectif, c'est de nous amener à Dieu. C'est de nous rendre aptes à entrer dans la présence de Dieu. C'est qu'un jour, lorsque j'irai vers Dieu, les souffrances s'arrêtent et que Dieu m'accueille, que j'entre dans sa présence. Et tout le but de la souffrance de Christ, c'était ça, c'était de nous amener à Dieu. Pierre ne nous donne pas Jésus-Christ comme exemple ici, pas dans ces quelques versets-là. Il nous est donné comme source d'encouragement parce que ces souffrances nous ont acquis la promesse de notre salut. Ces souffrances lui ont acquis la victoire sur le péché, sur le mal, et l'assurance de notre salut, l'assurance qu'on sera réunis avec lui. Cette parfaite injustice que Christ a acceptée lui a acquis la victoire absolue sur le péché, et c'est là que se trouve notre espérance. C'est dans sa victoire. À quoi ça sert de souffrir? Pour les chrétiens, ça sert à bien des choses. Pierre nous donne plein d'éléments. On va en parler encore la semaine prochaine. D'autres angles, être un bon témoignage. Mais ici, ce que Pierre nous dit, c'est afin d'être du bon côté de l'histoire. Afin d'être du bon côté de l'histoire. Christ a eu la victoire absolue. Il a vaincu la mort, le péché et le diable. Au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Christ a souffert plein de fois dans sa vie, mais une fois pour le pardon de nos péchés, c'est sur la croix. Puis ensuite de ça, il est ressuscité d'entre les morts. Des centaines de personnes ont été témoins de sa résurrection. La majorité des apôtres sont morts martyrs pour défendre cette déclaration de foi-là. Parce qu'ils avaient la ferme assurance que Christ avait vaincu la mort, le diable, le péché, et qu'à leur mort, ils seraient réunis avec Christ dans la gloire. Ils seraient réunis avec Christ dans la gloire. Verset 22. Cette eau était une figure du baptême. Je reviens sur Noé un petit peu plus loin. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Christ règne actuellement. Il est dans la gloire. Et une des manières les plus importantes pour les chrétiens de traverser les épreuves de la vie, c'est de cultiver notre cœur d'adorateur. On a commencé la série dans 1 Pierre en disant ceci. Une des leçons les plus importantes, une des premières leçons dans 1 Pierre, c'est quoi? Si ton adoration ne va pas bien, la vie chrétienne va être difficile. Et donc, si tu souffres actuellement de situations injustes, une des choses que tu as besoin de faire, un des endroits, t'es chrétien, t'es chrétienne, un des endroits où tu vas trouver un remède pour ton cœur, c'est de prendre des temps d'arrêt dans la semaine. Pour t'arrêter, lire ce passage, aller dans la prière et contempler Christ qui règne. Contempler Christ qui règne actuellement. Puis aller dans la louange, aller dans l'adoration. Dire, Seigneur, dans ma vie actuellement, je souffre, mais je sais que tu règnes et que la victoire m'est acquise. Et j'ai besoin de ces temps d'arrêt. Des fois, si tu souffres beaucoup, une fois par jour ne suffit pas. Tu commences ta journée en l'adorant, en célébrant. Puis ça va mal au travail, puis je ne sais pas, une relation avec un collègue super difficile. Pars marcher sur l'heure du lunch. Reste pas dans la boîte, pars marcher sur l'heure du lunch. Va dans la prière, va louer Christ. Prends le temps de le contempler, régnant, victorieux, à la droite du Père, intercédant pour toi. Prends le temps de l'adorer. Si ton adoration, si ta louange ne vont pas bien, la vie chrétienne est extrêmement difficile. Et donc, si tu dis, Yannick, ça ne fait pas partie de ma vie, moi, j'adore le dimanche matin par les chants. C'est un bon début, mais c'est loin d'être suffisant parce que la vie chrétienne, tu n'enlèves pas ta soutane en quittant ici, là. Tu comprends? Tu demeures un chrétien toute la semaine. Autrement, tu vas vivre toute la semaine comme un chrétien charnel, tes souffrances, tu vas prendre recours, comme dit Pierre, à nos anciennes solutions avant d'être chrétien. Qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait des souffrances injustes? Tu sais comment tu étais avant. Mais si tu ne veux pas retomber là, tu as besoin de cultiver cette vision de Christ dans sa gloire. Plusieurs fois par jour, peut-être. Plusieurs fois par jour, peut-être. Tu dors mal. Tu fais des cauchemars la nuit parce que tu es anxieux. Prends le temps d'aller dans l'adoration. Contempler Christ dans sa gloire. Il a obtenu la victoire. Il a obtenu la victoire. Et il a proclamé la victoire. Écoutez, ce passage-là est tellement difficile à interpréter. C'est quoi qui s'est passé là? Il est allé proclamer, prêcher. À qui, comment, quoi? C'est quoi qui se passe là? J'ai dit tantôt en introduction, Martin Luther dit ceci. Martin Luther, pas Martin Luther King, le réformateur du 16e siècle, dit ceci. « Ce texte est étrange et certainement l'un des passages les plus obscurs du Nouveau Testament. Je ne sais toujours pas vraiment ce que l'apôtre voulait dire. » Ça me fait du bien comme interprète de la Bible, tu sais, quand je peux citer Martin Luther comme ça. Ça me rassure, je me dis, OK, j'ai peut-être le droit à l'erreur ici. Fait que je veux juste vous le dire. Ce matin, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez toujours le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je veux que vous ayez des convictions. C'est une blague! Tableau, réveillez-vous, vous dormez. Voici les questions qui sont difficiles sur le passage. Où est allé Christ? C'est où qui est allé au juste prêcher en prison, aux esprits en prison? Qu'est-ce qu'il a prêché? Et puis, à qui est-ce qu'il a prêché? C'est qui les esprits en prison? Ce que je veux faire ce matin avec vous, je ne vais pas démêler ça pour tout le monde, je vous avoue. Je vais vous dire ma compréhension, mais je vais être fair play avec vous. Je vais vous donner les trois interprétations classiques. Et puis, ensuite de ça, je vais quand même tirer une leçon importante de ça. Trois interprétations, et c'est simplement pour vous dire que c'est vraiment difficile d'avoir une certitude. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions avec Jésus de l'autre côté, puis Pierre a des comptes à nous rendre de l'autre bord. Vous comprenez? Pierre, on savait que tu n'étais pas particulièrement instruit, mais là tu as été tough. T'sais? Fait que, on va être gracieux, on sait que le Saint-Esprit t'a inspiré, fait qu'on va essayer de faire quelque chose avec ça. Première interprétation, qui pendant longtemps dans l'histoire de l'Église a été la plus répandue, entre sa mort et sa résurrection, il serait descendu aux enfers pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont morts avant sa venue. Donc, comment les gens faisaient-ils pour être sauvés avant la venue de Christ? Bon, mais certains ont déterminé que entre sa mort et sa résurrection, il serait descendu aux enfers pour prêcher l'Évangile à ceux qui sont morts avant qu'ils viennent pour qu'ils puissent peut-être être sauvés. Et un des documents chrétiens les plus anciens, hormis la Bible qu'on possède, le symbole des apôtres ou le credo des apôtres, laisse entendre que ça serait peut-être ça l'explication. Maintenant, le credo des apôtres, ce n'est pas la Bible. Il y a juste la Bible qui est la Bible. Et le credo des apôtres n'a jamais été adopté par aucun concile. Les conciles, c'était des gros meetings des églises de partout à l'époque qui, des fois, adressaient des fausses doctrines qui circulaient, le fait que Jésus-Christ n'aurait pas été Dieu, des choses comme ça. Le credo des apôtres n'a jamais été adopté dans un concile. Mais voici ce qu'il dit. Hey, je vais dépasser un peu mon temps ce matin, les amis, je suis désolé. Je vous lis rapidement le credo des apôtres, c'est très bref. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté au ciel, je m'arrête ici. » Il me manque la moitié du credo encore. Elle est descendue aux enfers. Et donc, pendant longtemps, même plusieurs pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers théologiens dont on a des écrits comme Clément d'Alexandrie, ont conclu de ce passage-là dans 1 Pierre que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, est allé aux enfers pour proclamer l'Évangile à ceux qui étaient morts avant qu'ils viennent. Maintenant, il y a plusieurs difficultés avec cette position-là. Et une des implications de cette position-là, c'est que ce serait possible de devenir chrétien après ta mort. D'accord? Ça sous-entendrait qu'il y aurait pas des dépressions post-mortem, non. Mais des conversions post-mortem. D'accord? Et puis évidemment, les Écritures nous disent qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fait qu'on a un problème. Et tout ça va conduire donc à l'élaboration même de la doctrine du purgatoire. Dans le purgatoire, qu'est-ce qui se passe? Après ma mort, je m'en vais dans un endroit de souffrance où je vais terminer d'expier mes fautes par moi-même, puis ensuite je vais pouvoir aller dans la présence de Dieu. Tout ça va découler de ça. C'est une fausse doctrine, ce n'est pas admis, d'accord? Et ça va découler de là. Il y a des difficultés avec cette interprétation-là. Une des difficultés, entre autres, c'est que le passage en grec ne parle pas de descendre. Quand ça dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, il n'y a aucune notion de descente. Ça fait un peu partie de la mythologie de dire que les enfers sont en bas. Tu sais. Mais donc ça, ce n'est pas là dans le texte. Il n'y a pas question de descente. Dans le passage, c'est dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, mais le langage en grec qui est là n'a aucun mot qu'on connaît pour des notions d'enfer ou de lieu de souffrance. Le Sheol, l'Hadès, c'est des mots grecs. Ils ne sont pas là dans le texte non plus. Fait que c'est vraiment de lire le texte puis de dire, je pense que c'est de ça que ça parle, mais le texte n'est pas évident. Il ne va pas de manière évidente dans cette direction-là, d'accord? Et puis, une autre des difficultés, c'est que Christ serait allé prêcher en enfer alors qu'il n'est pas ressuscité encore. Et donc, sa résurrection, son ascension font partie intégrale de son œuvre. La victoire, c'est sa résurrection. La victoire, ce n'est pas sa mort. La victoire, c'est sa résurrection. Il est glorifié lorsqu'il va dans la présence du Père. Tout ça, ce n'est pas produit si ça s'est passé entre les deux. Ça sous-entend aussi une espèce de vision de Christ où son corps est mort, mais son esprit est vivant, puis là, on est corps-esprit, puis on peut être séparé comme ça. Fait qu'il y a plusieurs difficultés dans le passage. Honnêtement, cette interprétation-là n'est pas répandue maintenant, aujourd'hui. Maintenant, deuxième interprétation. Christ avant son incarnation. Ça, c'est la deuxième interprétation. Dans le fond, Christ avant son incarnation, on fait de la théologie à matin, hein? Avant que Dieu le Fils ne devienne Jésus de Nazareth, il existait éternellement. Vous êtes avec moi? Ça va jusque-là? Oui? Fils éternel, s'incarne, devient un homme. Avant son incarnation, au temps de Noé, par son esprit, à travers Noé, il a annoncé l'Évangile à sa génération. Ça, c'est une deuxième compréhension. À travers Noé, il a annoncé l'Évangile à sa génération. Cette approche-là vient d'Augustin. D'accord? Et Augustin, cette interprétation-là, bien, il était très, très, très préoccupé par l'idée qu'on pourrait se convertir après la mort. Théologiquement, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas biblique. Fait qu'il dit probablement que c'est ça qui s'est passé, c'est que Christ, à travers Noé, a prêché à sa génération. Maintenant, cette position-là est moins défendue aujourd'hui aussi parce qu'elle n'est pas bien soutenue par le passage. La troisième interprétation, vous aurez deviné que c'est la bonne, Christ, ressuscité par l'Esprit, revenu à la vie, est allé annoncer le triomphe de l'Évangile aux gens qui n'avaient pas cru en Dieu avant, pas pour qu'ils se convertissent, ou encore aux démons, on ne sait pas, parce que les esprits en prison, on ne sait pas si c'est des êtres humains ou des esprits impurs, on n'a aucune idée, le texte ne me permet pas de le dire, c'est le mot grec qui est là est plus souvent utilisé pour des démons que pour des êtres humains, que pour l'esprit que nous on a. Donc, Christ, ressuscité par l'Esprit, revenu à la vie, est allé annoncer le triomphe de l'Évangile, soit aux gens qui n'avaient pas cru avant, mais comme une proclamation pour dire, vous voyez, c'est ça la réalité, c'est que le mort a été vaincu, non pas qu'il pouvait se convertir, mais pour déclarer devant tous, ou devant les esprits impurs, les démons qui avaient rejeté Dieu. Et ça, ça ferait un lien avec la fin du passage, où Christ est assis à la droite de Dieu et il a toute autorité. C'est ma compréhension du texte. C'est que lorsqu'il est question de sa mort dans sa chair, on parle de sa mort à la croix, et lorsqu'on parle de vie par l'Esprit, on parle de sa résurrection. Et au moment où il y a eu son ascension, il est monté dans la présence de Dieu, il a proclamé l'Évangile. Et Dieu lui a accordé toute autorité, tout pouvoir sur toute domination, sur tout esprit. Et c'est la compréhension en général qu'on a de ce passage-là. Peut-être ne sera pas convaincante pour plusieurs d'entre vous, d'accord? Et là, je veux faire une application concrète. Là, je veux m'adresser aux sceptiques de la Bible. Plusieurs d'entre vous, ou vous entendez souvent ça par des gens au travail, mais si tu es ici avec nous ce matin, ou si tu écoutes le message sur le web, ça se peut que tu aies une opinion sur la Bible où tu dis, « Bien, regarde, Yannick, avec le passage de ce matin, je veux dire, l'Église est divisée depuis 2000 ans sur l'interprétation de ce passage-là. » Bon, j'ai quand même dit que c'était le passage le plus compliqué à interpréter du Nouveau Testament. Là. Ça n'arrive pas toutes les semaines. Mais, tu as raison. Voici la chose importante que je veux qu'on retienne du passage. La leçon fondamentale du texte est très, très claire. Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il est ressuscité d'entre les morts, il est mort sur la croix pour nos péchés et aujourd'hui, il est vainqueur. Ça, c'est ce qu'on appelle une doctrine essentielle. J'ai besoin de croire ça pour être chrétien. Et la portion obscure et difficile du passage ne change rien à cette doctrine essentielle-là. Donc, ce n'est pas vrai de dire que je peux faire dire n'importe quoi à la Bible. Non, la Bible est souvent très, très, très claire. Et parfois, elle est difficile à comprendre. Et lorsqu'elle est difficile à comprendre, les chrétiens ne construisent pas une doctrine essentielle sur ça. On demeure un, puis on dit, « Wow, c'est pas clair. » Et on va plus loin, mais on va même dire, « On va pas se diviser là-dessus. » J'ai pas besoin que vous croyiez la même chose que moi pour que je vous reconnaisse comme chrétien. Mais si vous venez me voir, puis vous me dites, Jésus, c'était juste un bon exemple à suivre. Je vais être obligé de te dire, t'es pas encore mon frère dans la foi. Ah, t'es mon frère homme. T'es né comme moi, t'es une créature merveilleuse. Mais il t'en manque encore un sirop de gros morceau avant d'avoir saisi l'évangile de Jésus-Christ. Tu as besoin de croire qu'il était juste et qu'il est mort pour toi comme injuste, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est à la droite du Père glorifié, ayant pleine autorité. Fait que je veux vous encourager, si vous êtes sceptique puis vous dites « la Bible, on peut y faire dire n'importe quoi », des fois, il y a des passages difficiles, mais aucun enseignement important du christianisme n'est construit sur un passage obscur. C'est pour ça que lorsque l'Église catholique a élaboré en partie sur ce verset-là toute la doctrine du purgatoire, l'Église chrétienne a dit non, ça ne marche pas cette affaire-là. C'est un passage obscur, il est difficile. Regarde, Yannick, qui est tout mêlé en avant matin. On ne peut pas construire une doctrine là-dessus. Je crois personnellement que c'est la résurrection de Christ, son ascension, et il est allé proclamer devant tous. Ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont contre Dieu, la victoire de l'Évangile, c'est ça que je crois. Et je termine avec un dernier point. Parce qu'il est important, c'est la réponse que nous, on a donnée à ce passage-là. Le pas de foi qui remplit ma vie d'espérance. Verset 20, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi Pierre parle de Noé ici? Bien, juste une petite information historique intéressante. On a retrouvé des pièces de monnaie de l'Empire romain, de la région d'Asie, de cette époque-là, qui nous aide à comprendre, on le sait déjà parce qu'il y avait quelques récits autour de Noé extra-bibliques, des récits qui ne viennent pas de la Bible, qui circulaient en Asie mineure à l'époque, mais on a retrouvé des pièces de monnaie à l'effigie d'un côté de l'empereur romain, puis de l'autre côté de Noé et sa femme. Et donc, dans la littérature juive, le personnage le plus connu à l'époque dans cette région-là était probablement Noé. D'accord? C'est quand même une figure incroyable, comme tout le récit du déluge. Et probablement que Pierre a décidé de prendre cette image-là, entre autres pour ça, parce que ça les interpellait. Comme Paul va s'adapter lorsqu'il va à Athènes, les gars s'adaptaient là où ils étaient, là où était leur champ missionnaire. Mais il y a une autre raison pour ça. C'est qu'on a ici une figure du baptême. On a ici une figure du baptême. Voyez-vous, Noé, comme l'Église à l'époque, faisait partie d'un petit groupe de personnes, 8, qui ont cru en Dieu alors que tout le monde ne croyait pas en Dieu et qui ont décidé d'avancer par la foi en Dieu. Lorsque Dieu leur a dit « Je vais juger les hommes parce qu'ils sont méchants. Ils me méprisent et ils se méprisent les uns les autres. Ils me rejettent et ils se détruisent les uns les autres. Et je vais juger l'humanité. » Et Noé faisait partie de ce petit groupe de personnes, comme les chrétiens à l'époque de Pierre étaient un petit nombre de croyants. Et Noé a décidé de faire un pas de foi, construire une barque, un navire énorme, pour survivre au jugement de Dieu. Et donc, Pierre est en train de dire, un autre jugement va venir sur les hommes. Un autre jugement va venir sur la terre entière. Au retour de Christ, l'humanité va être jugée. Maintenant, tu as un choix à faire, comme Noé a eu un choix à faire. Tu as à choisir si tu vas embarquer dans la foi en Jésus-Christ ou si tu n'embarqueras pas. Voyez-vous, lorsque on se fait baptiser, la semaine dernière, on a eu un baptême, la semaine précédente, on a eu un autre baptême. Ce n'est pas un geste qui nous purifie de nos péchés. C'est l'œuvre de Christ qui nous purifie de nos péchés. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience, libre, volontaire. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des jeunes enfants. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu à placer ma foi en Jésus-Christ, dans son œuvre. Et autant Noé passait pour un fou à son époque, de construire ce navire au beau milieu de nulle part, attendant le jugement de Dieu, annonçant, proclamant qu'il y a un jugement qui s'en vient. De la même manière, lorsque je décide de croire en Jésus-Christ, je fais ce pas-là de foi. De vivre comme un fou, peut-être, pour mon époque. D'accepter de souffrir des souffrances injustes. De ne pas être revanchard, de ne pas être en train de me venger constamment. De ne pas être constamment hargneux contre les injustices de la vie. Mais d'avoir cette assurance dans mon cœur que si j'ai à subir des souffrances injustes dans cette vie, j'ai placé ma foi dans celui qui a déjà acquis la victoire pour moi. Et j'embarque dans la vie chrétienne, j'embarque avec Noé, en proclamant publiquement, par mon baptême, ma foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas embarqué encore, avec Noé dans le bateau. Si tu n'es pas passé dans le baptistère encore pour te faire baptiser, puis tu dis « Oui, mais pourtant je suis chrétien, je crois. » Engage ta conscience librement devant cette assemblée. Demande à être baptisé. On va t'accompagner, on va te préparer, on va clarifier si tu comprends bien l'Évangile, qu'est-ce que Christ a fait. Ça ne sauve pas cette affaire-là. Ce qui sauve, c'est Christ et notre foi en lui. Mais c'est notre engagement de foi. Puis ensuite de ça, on va te tenir redevable de cet engagement de foi. Et on va le faire avec toi. On va être ensemble en Église pour dire, c'est pas toujours facile de souffrir des injustices, mais on est ensemble dans cette barque-là jusqu'au retour de Christ. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je veux terminer mon passage avec cette parole d'encouragement extraordinaire. Extraordinaire. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, 19, 18 à 20. Vraiment un passage qui fait écho à la victoire de Christ. Pierre termine ce passage en disant « Il est à la droite de Dieu. » Et il y a toute domination, il y a tout pouvoir, toute autorité. Sur les anges, les dominations, les autorités, c'est lui qui règne. Dans Matthieu 28, 18 à 20, voici ce que Jésus dit après sa résurrection. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est sûr que cette semaine, tu vas peut-être subir des injustices. C'est probable que certains d'entre nous vivent des injustices cruelles. On n'est pas en Chine. On n'est pas persécuté comme si on était chrétien en Iran. Mais il y a des injustices parce qu'on vit au milieu des injustes et nous-mêmes, on en fait subir aux autres. Il y a des injustices parce qu'on vit ici-bas. Et certains d'entre vous, vous êtes dans des endroits où cela implique énormément de souffrance, beaucoup de souffrance. Maintenant, ce que Pierre te dit ce matin, regarde pas à Christ comme l'exemple à suivre, pas ce matin. Regarde à Christ comme celui qui a vaincu, celui qui est ressuscité, celui qui te prépare une place. Et embarque par la foi, suis-le par la foi, parce qu'il revient bientôt. Il revient très bientôt. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer. Ce matin, on veut te célébrer. On veut élever ton nom en Église. On veut élever ton nom dans nos cœurs, par nos chants, Seigneur. On veut reconnaître que tu es Seigneur. On veut reconnaître que tu as vaincu la mort, le péché, le diable, Seigneur. Et Seigneur, par la foi, on veut considérer des situations de souffrance que nous vivons, des situations parfois injustes, parfois cruellement injustes, Seigneur. Et on veut les considérer par la foi, en reconnaissant que toi, tu as vaincu, que toi, tu as gagné, Seigneur. en reconnaissant que tu es mort sur la croix, non seulement pour nous donner un exemple, mais premièrement pour payer pour des injustes dont je suis, Seigneur, toi le juste, afin que nous soyons amenés à Dieu, Seigneur. Seigneur, je te prie de fortifier mes frères et sœurs qui souffrent et qui peut-être ont perdu leur joie, ont perdu leur paix, ont perdu cette attitude tellement gracieuse, caractéristique des chrétiens dans la souffrance, Seigneur. Et viens les renouveler dans leur esprit par ton Esprit Saint, par ce message de l'Évangile, Seigneur. Et si quelques personnes sont sceptiques, convainc-les qu'un juste est mort à la croix pour eux injustes, afin qu'ils puissent être sauvés et amenés à Dieu. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Amen.